Bonjour, bienvenue sur le podcast de Moodstep, où nous parlons de savoir-être au travail. Aujourd'hui, je me suis fait un petit plaisir. Donc ce podcast intéressera plus particulièrement les facilitateurs, les coachs, les consultants qui travaillent avec des groupes, puisque nous allons parler de pédagogie ludique avec Esther. Je suis Johanna Kellen, opératrice de Turbine à Bonheur, un jeu qui justement utilise la pédagogie ludique pour apprendre à détecter nos modes opératoires, comment nous fonctionnons, quels sont nos talents et quels sont les talents du groupe. Nous retrouvons tout de suite Esther pour nous plonger dans ce sujet. Je me frotte déjà les mains. Bonjour Esther.
Bonjour Johanna.
Bienvenue dans le podcast de Moodstep. Nous allons parler d'un sujet qui est au cœur, moi, de ma pratique et que ça me met en joie de t'avoir sur ce podcast. On va parler de pédagogie ludique. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Quel est ton parcours et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, je vais commencer par ta dernière question. Aujourd'hui, je suis facilitatrice et formatrice. Facilitatrice en intelligence collective, en créativité. Donc, j'utilise effectivement la pédagogie ludique, c'est au cœur de mon métier. Et pour parler de mon parcours, alors mon parcours, c'est vraiment un parcours qui est atypique, totalement hétéroclite. Je crois que j'en suis au moins à mon 7e métier. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais c'est vrai que j'ai un parcours qui a toujours été au plus près des gens. Par exemple, j'ai été standardiste, j'ai été assistante de direction, j'ai travaillé dans le prêt-à-porter également. Et c'était toujours, pour moi, ce qui était le plus important, c'était la relation à l'autre. Et c'est ce qui, encore aujourd'hui, est le plus important pour moi.
Alors, comment t'es arrivée sur ce domaine de la pédagogie ludique? Comment tu l'as découvert?
Quand j'ai eu mes 30 ans, j'ai eu l'opportunité en fait de quitter le poste où j'étais pour faire une formation de formateur. J'avais cette idée en tête en fait de devenir formatrice. La première idée que j'avais en tête, c'est d'être formatrice pour former les futures assistantes de direction. Et j'avais ça en tête, donc je suis partie me former. Et au cours de ma formation, c'était un parcours sur 6 mois, donc c'est un parcours de transformation aussi. Et ben, j'ai eu la joie, le bonheur de découvrir les jeux cadres de Tiagi. Et là, pour moi, ça a été une révélation et une révolution. Et j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc c'est voilà, j'ai mis le doigt dedans.
Est-ce que tu peux nous parler de qui est Tiagi et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a développé? Quels sont ses jeux cadres?
Oui, bien sûr. Alors, Tiagi est un concepteur de jeux. Donc, son nom complet, c'est Sivai Salam Tiagarajan. Donc, tu comprendras pourquoi tout le monde l'appelle Tiagi. C'est beaucoup plus simple. Et c'est un concepteur de jeux, donc, qui est indien et qui vit aux États-Unis. Et il a modélisé le concept de jeu cadre. Un jeu cadre, c'est simplement une structure de jeu, comme un cadre photo. La structure reste la même et tu peux y mettre le contenu que tu veux. Donc, deux formateurs vont utiliser le même jeu cadre, mais pour des objectifs et des contenus différents. Il a créé un jeu par jour depuis plus de 30 ans. Donc voilà.
Mais c'est son talent à lui.
Absolument. C'est son talent à lui pour notre plaisir à nous tous. Ouais.
T'as eu l'occasion. Donc tu as découvert les jeux de Tiagi par quel biais? Au sein de
en
ta formation,
formation
dans en ta formation.
Absolument.
Mais je sais que tu l'as rencontré. Donc comment après tu as approfondi ce sujet?
Alors, une fois que j'ai découvert les jeux, j'ai commencé à lire évidemment dessus, à aller voir ce que je trouvais. Et ensuite, je suis allée le voir en formation. Parce que c'est là où ça se passe, en fait aussi, où la magie apparaît, c'est en formation. Donc, je suis allée le voir en mai 2014 et j'ai participé à un atelier qui avait lieu à Paris, qui avait lieu sur 2 jours. Et ensuite, je l'ai vu régulièrement et j'ai eu le plaisir aussi de travailler avec Mieux Apprendre, qui est le représentant francophone des jeux de Tiagi. J'ai pu travailler avec eux pendant quelques années et donc collaborer plus étroitement avec Tiagi.
D'accord. Donc, est-ce que on t'apprend à créer tes propres modèles de jeu ou vraiment tu apprends toutes les structures possibles, toutes les mécaniques de jeu et c'est ça, c'est comme ça qu'on rentre dans ce monde?
Je pense qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'y rentrer, que ça dépend aussi étroitement. En fait, ça dépend où tu en es dans ton parcours, à quel. Oui, déjà ce que tu recherches, où tu en es dans ta posture de facilitateur aussi. Je pense que tout le monde va y trouver quelque chose. C'est-à-dire l'animateur qui vient et qui a besoin d'une structure, d'une activité prête à l'emploi. Il peut plonger dans les jeux de Tiagi et trouver juste une activité, voilà, ce dont il a besoin, prête à l'emploi, comme un kit si tu veux. Et après, tu peux aussi venir et te dire, ben, voilà mon objectif, voilà ce que j'aimerais faire ça de différent. Et tu vas plonger dans une activité, l'utiliser telle quelle et la modifier. Et la faire tienne en fait. Et tu vas créer tout simplement une nouvelle version.
Alors, pourquoi on peut utiliser, à quoi ça sert d'utiliser ces jeux?
Les jeux, ils vont servir déjà dans un premier temps à organiser les échanges. Ils vont servir à stimuler l'intelligence collective. Et ils vont servir à quelque chose qui pour moi est très très important, à rappeler aux participants que les experts, c'est eux en fait. Donc, il va y avoir un changement dans la dynamique. Donc ces jeux, ils vont servir à engager, à favoriser l'interactivité et surtout ils vont nous permettre à atteindre les objectifs d'apprentissage et les objectifs ensuite de performance parce qu'on sait aujourd'hui que c'est ce qui fonctionne, de faire interagir les participants, de les faire interagir avec le contenu. Il y a beaucoup plus de beaucoup non pardon des taux de rétention beaucoup plus grands à l'issue de la formation.
Ah oui, c'est dû à quoi? Pourquoi?
Parce qu'ils sont plongés dedans, parce que c'est pas simplement passif, c'est-à-dire pas simplement recevoir une information, l'écouter et prendre en note. Non, ils vont vivre, ils vont y mettre quelque chose qui est d'eux, puisqu'on va les pousser à aller voir les autres ou à aller écrire sur le sujet. Ils vont répondre à des questions, ils vont apprendre les uns des autres. Donc en fait, ça se tisse. Ça se tisse, ça se consolide en se faisant.
Et pour que les gens qui nous écoutent puissent visualiser ce qu'est un jeu cadre, est-ce que tu pourrais nous donner, je sais pas, soit des exemples, soit une structure qu'on comprenne mieux?
Comment est-ce qu'on explique un jeu cadre? En fait, une fois qu'on le vit, ça devient très simple à comprendre. Mais après, ça paraît abstrait. La dernière fois, c'était assez amusant. J'ai fait une intervention justement sur oser animer autrement. Et à la fin, j'ai un des participants qui est venu et qui est venu me dire, ah ben maintenant, je comprends ce que tu fais. Bon.
Donc
Donc, c'est
c'est
pour
un
te
vrai
dire.
défi de pouvoir l'expliquer à
C'est
l'oral,
un
mais on
défi.
va tenter, on va tenter.
Par exemple, une de mes activités préférées s'appelle Enquête vite fait bien fait ou elle s'appelle aussi Hello. Ou goodbye, parce que tu peux la faire à différents moments de la journée. Et par exemple, quand tu démarres une journée de formation, ou plusieurs journées qui vont suivre, des fois, tu as des questions que tu souhaites poser aux participants, ou qu'ils se posent entre eux. Et donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux, par exemple, préparer, on va dire, quatre questions. Tu as quatre questions, tu vas faire quatre groupes. Et tu vas demander, en fait, à chaque groupe d'être en charge, d'être responsable de la question que tu vas leur donner. Ils vont être responsables de cette question, ce qui veut dire qu'ils vont être responsables d'obtenir la réponse à cette question auprès de l'ensemble des participants dans la salle. Pour te donner des exemples de questions, par exemple, ça peut être quelle est votre profession? Quelles sont vos attentes pour cette formation? Quelle question vous vous posez sur ce sujet? Quelle est votre expérience dans ce domaine? Etc. Après, tu choisis les questions en fonction de ce que tu veux aller chercher. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'en fait, nous, parce qu'on aime bien jouer avec les cartes, on prend des enseignes de cartes qu'on aura distribuées au préalable aux participants. On fait quatre enseignes. On a les cœurs, les carreaux, les piques, les trèfles. Une enseigne par carte. Les personnes se regroupent ensemble. Je te parlais de structure tout à l'heure. Par exemple, cette activité est très structurée. Phase numéro 1, les participants doivent déjà ensemble définir une stratégie pour savoir comment est-ce qu'ils vont aller chercher l'information.
Oui.
Ça va durer 3-4 minutes, ça dépend. Phase numéro 2, alors là, tu lâches les faux. Tu leur dis, c'est parti, début de l'enquête. Donc là, tu laisses 7 à 10 minutes, ça dépend. On utilise aussi la pression du temps. Donc là, ils vont aller récolter l'information. C'est un peu le chaos. 3, ils reviennent ensemble, en groupe. Ils échangent ensemble sur ce qu'ils ont récolté comme information. On leur donne ensuite un paperboard sur lequel ils vont synthétiser l'information. C'est totalement libre, ils le font comme ils le souhaitent. Et 4, on a un échange en grand groupe. Chaque groupe va présenter d'une manière collaborative les résultats, la réponse à la question à l'ensemble du groupe. Et on va utiliser ce moment-là pour déjà aider une, qu'est-ce qui se passe ? Nous, en tant que formateurs ou animateurs, on reçoit directement l'information de la part du groupe. On est allé, ça va assez vite. Et en plus, on a l'opportunité de pouvoir répondre en direct, de pouvoir peut-être apporter des compléments d'information, etc. Donc ça, c'est un exemple de jeu cadre, avec une structure dans laquelle tu peux tout changer. Tout animateur peut changer les questions, peut changer le timing, le moment de la journée dans laquelle il l'utilise, etc.
Oui, ça veut dire par exemple dans ce jeu, à la fin tu peux récolter aussi quelles ont été, donc quelles sont les réponses aux 4 questions, mais aussi les stratégies qui ont été mises en place pour récolter l'information.
Alors ça, c'est la magie des jeux de Tiaki. Le plus important, ce sera toujours le débriefing. Tu peux très bien choisir, selon ton objectif, c'est aussi à qui ça sert et à quoi ça sert, le jeu que tu vas mener. Et surtout ça, faut pas oublier que c'est un moyen. Donc tu peux, si ton but est de travailler sur les stratégies, bien sûr, tu peux débriefer l'activité en elle-même.
Aujourd'hui, par rapport à ce système de jeu, est-ce qu'il y a des freins? Est-ce qu'on voit dans les groupes des freins? Et quels sont-ils?
Tu veux dire lors d'une animation?
Oui, au sein des participants. Parce que, comme tu le dis, c'est animé autrement, c'est formé
absolument
autrement. Donc je suppose qu'il doit y avoir des freins, parce que dès qu'on sort un peu des zones de confort, de ce dont on a l'habitude, des freins apparaissent.
Oui, les freins sont là, sont effectivement là. C'est aussi quelque chose à voir en amont, lors de la conception, lorsqu'on rencontre le client, qu'on pose aussi les questions sur les participants. Il y a aussi la culture de l'entreprise, évidemment. Une des choses que j'ai appris, c'est que on n'est pas obligé d'appeler un jeu un jeu. On peut simplement l'appeler une activité ou ne pas l'appeler du tout. C'est-à-dire tout simplement de démarrer en disant voilà ce que je vous propose de faire maintenant. De vous mettre en groupe selon vous avez d'autres participants qui ont la même enseigne que vous. Je vais vous demander d'abord de rejoindre vos partenaires, etc. Donc ça me permet, quand je fais ça, ça me permet, quand je ne connais pas encore beaucoup les participants ou que je pense que ça peut être effectivement un frein, ça me permet de ne pas les faire entrer en résistance. Mais sincèrement, ça arrive très rarement parce que, encore une fois, dans la démarche, c'est un moyen. La pédagogie ludique et les jeux sont des moyens. Donc l'important n'est pas là-dessus, en fait. Je vais beaucoup plus me fixer sur l'interactivité, l'interaction entre les participants.
Tu as d'autres exemples de jeux Tiagi?
Ouh, j'en ai beaucoup d'exemples.
Parce qu'en fait, je trouve ça extrêmement concret. Bon, même si tu dis que c'est vrai que c'est l'expérience qui est la plus intéressante, personnellement, je ne sais pas si les gens qui écoutent arrivent à visualiser, mais je trouve ça assez concret. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres exemples à nous présenter.
Propose-moi un sujet. Quel serait par exemple toi en animation? Quel serait quelque chose que tu as envie de faire différemment ou...
Bon, alors moi j'utilise Je ne le savais pas, hein. J'ai découvert les jeux cadres que très tard, mais donc je n'utilise que ça, que des mécaniques de jeu comme celle-ci. Par exemple, là, on m'a contacté pour une transformation profonde d'une entreprise. Et le but, le défi, c'est d'identifier les procédures. Donc, il y a une réorganisation et c'est d'identifier les procédures au sein de la société qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont entre plusieurs services, à des endroits, ça bloque. Alors, le but serait d'identifier les procédures qui ne fonctionnent pas et oui. De faire des propositions d'amélioration.
Oui. Et donc, qui c'est qui doit faire ça?
Les participants, donc ce seront des managers.
Par exemple, déjà rien que la structure du Hello pourrait être tout à fait possible. Ce qui peut être possible, parce que le Hello te permet en fait d'aller recueillir de l'information auprès des participants. Et ça aussi, c'est la valeur ajoutée des activités de Tiagi. Je pense aussi à quelque chose, tu n'as que des participants qui sont du même, c'est-à-dire que c'est un groupe qui est homogène ou hétérogène? C'est-à-dire, est-ce que tu as plusieurs types de métiers?
Hétérogène, donc qui sont de plusieurs services, qui justement, certains services peuvent en bloquer d'autres et vice-versa. Mm-hmm. Et en plus, c'est au cœur d'une réorganisation de la structure même de l'organigramme. Donc, oui, c'est hétérogène.
Il y a une activité que j'aime beaucoup parce que justement, elle nous permet d'aller chercher la richesse chez les participants individuellement et en tant que groupe, à la fois homogène et hétérogène. C'est une activité qui s'appelle 5 idées, qui est, je vais synthétiser un peu, mais l'idée, c'est dans un premier temps de faire travailler les groupes ensemble de manière homogène, d'aller avec un processus d'idéation, de produire des idées, sur par exemple ce que tu viens de dire sur ce sujet-là. Ensuite, de séparer les groupes et de créer des nouveaux groupes, donc hétérogènes, donc là avec les différents services, et avec un nouveau processus aussi d'idéation, de comparaison et de nouvelle création d'idées, d'enrichir les idées qui sont là. Et c'est de rappeler aux participants, en fait, qui travaillent tous ensemble dans la même entreprise aussi.
Bah, le but, c'est aussi de présenter le nouvel organigramme et d'avoir de l'adhésion. C'est ça que j'aime aussi dans le jeu, c'est qu'on participe, donc on est engagé. Et ça favorise quand même le fait d'adhérer à un nouveau projet puisqu'on y a participé, en fait. Là, quand tu parles de... si je prends toujours cet exemple, c'est génial. J'ai du consulting en podcast. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, si je prends... c'est intéressant de passer donc, de l'homogénéité à l'hétérogénéité. Donc, c'est vraiment super. J'aime beaucoup cette idée. Maintenant, au sein de ce processus d'idéation, qu'est-ce que ça peut être? Parce que déjà, qu'est-ce que tu appelles un processus d'idéation et à quoi ça peut ressembler à l'intérieur de ces deux phases?
Un processus d'idéation, c'est quand on va, en fait, c'est comme un brainstorming, si tu veux, c'est remue-ménage, c'est quand on va produire des idées.
Donc, comment on fait pour produire des idées?
Là, on a beaucoup de manières de faire, on a toutes les techniques qui nous viennent de la créativité, on a ce qu'on appelle déjà la purge, c'est-à-dire de vraiment tout sortir ce qui nous passe par la tête. Après, on peut aussi avoir on est guidé, hein, évidemment, c'est-à-dire on peut se dire, ben, comment est-ce que on a les personnages inspirants, par exemple, comment est-ce que Lady Gaga, elle résoudrait ce problème? Comment est-ce que Mère Teresa, elle résoudrait ce problème? Et on va prendre des personnages, en fait le but c'est quoi? C'est simplement pour aller chercher des idées nouvelles, on a forcément besoin de voir un peu les choses sous différents angles. Donc on va aller les chercher. Par rapport à ce que tu proposes comme défi, hein, c'est le défi dont tu parles, beaucoup d'entreprises le rencontrent, Et on rencontre beaucoup aussi donc tu parlais de résistance tout à l'heure, il y a un autre type de résistance qui est la résistance aussi au changement, en fait.
Bien sûr.
Tu me parlais d'une activité, et en fait, ce que j'ai envie de te proposer, c'est en fait de te faire vivre une petite activité.
Ok.
Et que aussi ceux qui nous écoutent pourront aussi se lancer dedans.
Ok.
Alors, ce que je vais te demander de faire, c'est individuellement, en silence, de réciter les jours de la semaine dans l'ordre chronologique. En commençant par dimanche, et une fois que c'est fait, que tu les as récités dans ta tête, tu me fais signe, enfin tu me dis.
Je commence avec dimanche, le dernier jour de la semaine.
Tu commences avec dimanche.
Ok. Ça y est.
C'est fait?
Oui.
Ok. Ce que je vais te demander de faire, toujours en silence, de réciter les jours de la semaine, mais cette fois-ci dans l'ordre alphabétique. Et une fois
Ouf.
que c'est fait, tu me dis.
Ah y est.
D'accord. Alors, normalement, tu devrais avoir dimanche, jeudi, lundi, mardi, mercredi, samedi, vendredi.
Oui, attends.
Oui.
Non, on a comment? Dimanche, mardi, mercredi. Oui, c'est ça.
Moi, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'arriver à le dire aussi vite que ce que je viens de faire là maintenant.
Oui, c'était rapide même pour vérifier.
Est-ce que tu as remarqué une différence entre la première fois quand je t'ai demandé de le faire dans l'ordre chronologique et la deuxième fois quand je t'ai demandé de le faire dans l'ordre alphabétique?
Ah, il y a une énorme différence.
Ok. À ton avis, pourquoi?
Bah, déjà, dans l'ordre chronologique, on a l'habitude. Je veux dire, c'est naturel pour nous. On connaît l'ordre des jours. Alors que là, il faut se concentrer sur la première lettre, re-regarder chaque mot et le replacer dans l'alphabet. Et on n'a juste pas l'habitude de le faire.
Absolument, tu n'as pas l'habitude de le faire. Donc, ce que tu as dû faire, c'est qu'il y a quelque chose que tu sais, que tu as appris, donc qui est automatique pour toi, qui ne te demande pas d'effort. Donc, tu le fais très rapidement. La seconde version, elle t'a demandé quelque part de désapprendre pour réapprendre une nouvelle manière de faire. Donc, on peut tous le faire, simplement, ça nous demande un peu de temps. Donc, apprendre, changer, ça demande du temps et c'est normal.
Ok, j'ai une question aussi sur les instructions. C'est-à-dire que quand tu es facilitatrice, ces jeux, il y a des instructions, tu as dit phase 1, phase 2, phase 3. Est-ce que tu as des choses pour que ce... Comment tu fais pour que ce soit clair, pour que les gens comprennent? Moi, de mon expérience, quand on met des instructions, c'est très drôle parce que moi, je les mets par oral et écrit. Et ben, il y en a toujours qui comprennent autre chose. C'est vraiment étonnant d'ailleurs à vivre. Et dans le même groupe, les gens comprennent les choses différemment. Est-ce que
Ouais,
tu as cette expérience et comment on fait?
absolument, bien sûr. Mais en même temps, c'est ce qui est drôle parce que ça nous rappelle vraiment qu'on est tous différents. Et quelque part, enfin moi, je sais que ça m'a. Au départ, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Mais j'aime beaucoup ta stratégie de le faire à la fois à l'oral et à la fois à l'écrit. C'est vraiment très aidant. Je pense que c'est indispensable. Je pense que d'être vraiment simple, des consignes courtes. Par expérience aussi, en ne dire que ce qui est nécessaire à cette phase de jeu, même si ça peut être frustrant pour certains qui aiment avoir
Oui,
l'ensemble,
ouais.
simplement de rassurer, en fait, il y a une dimension rassurante en donnant peut-être la grande image et en disant je vais vous guider à travers les étapes. Moi, je sais que ça aide beaucoup. Moi, ça aide beaucoup. Et de dire, voilà, des consignes qui sont courtes. D'afficher uniquement celles qui sont nécessaires à un moment donné. Et de faire confiance aussi aux participants, parce qu'effectivement, ça arrive, hein, ça peut arriver, de l'inattention. Et après aussi, quand on prépare ces consignes, on ne sait jamais comment c'est interprété. Certains
Ouais.
mots évoquent d'autres choses que pour nous, aux personnes. Donc, en fait, c'est normal. J'ai compris que c'était normal. Je fais au mieux. Des fois, ça crée des situations assez comiques, mais voilà. Donc je ferai ça, je fais ça et je donne vraiment que les consignes qui sont nécessaires à un instant T.
Mais c'est vrai que C'est important, et j'ai remarqué avec l'expérience, de donner notamment l'objectif, même en début d'une séance de 2 ou 3 heures, de voir l'objectif global, et ensuite de vraiment compartimenter et de donner ce dont on a besoin au moment, au moment M. Mais même avec ça, alors c'est pour ça qu'aussi moi j'encourage, quand c'est en petit sous-groupe, qu'ils s'expliquent les uns les autres ce qu'ils ont compris avant de commencer, qu'ils reposent les règles ensemble, qui peut aider aussi à voir qu'on n'a pas compris tous la même chose, parce que c'est assez systématique quand même.
Oui, et en même temps, tu vois que ça devient une activité en soi.
Oui, c'est vrai. Et un des biais aussi en tant que facilitateur, c'est que, en fait, si on refait quelque chose, on ne se rend plus compte. Ça nous paraît simple et clair, et on ne se rend plus compte des détails qui manquent à la compréhension. Donc, c'est dans tout ce qui est ludique comme ça, c'est important. De ce que tu as vu, pour quels défis on peut utiliser, quels défis de l'entreprise on peut utiliser les jeux cadres ?
Tous. Parce que l'idée, c'est quoi en fait ? On va toujours partir effectivement du défi, surtout de ce qu'on veut voir de différent. Donc on va avoir un état présent et puis aussi un état désiré, c'est-à-dire se dire voilà ce qu'on a envie qu'il soit différent, qu'il change. Et à partir de là, on va se dire quelle est la meilleure façon d'y arriver. Et là, on va concevoir, si la réponse qu'on a décidé d'apporter, c'est de la formation, on met en place une formation et on va ensuite choisir les activités. Les activités peuvent être bien d'autres choses que les jeux de Tiagi. Si tu veux, moi, je ne me pose pas la question de me dire, je veux, entre guillemets, utiliser des jeux de Tiagi. Non, c'est j'écoute, j'analyse, et je me dis, je pense, à partir de tout ça, je pense que cette activité-là, va nous permettre de passer l'étape 1 et ensuite de passer à cette phase-là, etc.
Et en dehors justement des jeux de Tiagi, qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Je te prends comme super experte mondiale.
Oui.
Je ne sais pas si tu es. Mais est-ce qu'il y a d'autres tendances ? Est-ce que tu as vu d'autres choses ? Parce que c'est vrai qu'on se dit, au bout d'un moment, il y a tant de mécanismes, c'est dur d'innover sans devenir compliqué, en fait.
Oui, effectivement. Alors déjà, un rappel, c'est que pour la plupart des participants, ce sera la première fois. Peut-être que le facilitateur, lui, ça fera la millième fois qu'il anime une activité, mais pour les participants, c'est la première. Donc il y a aussi savoir pourquoi est-ce qu'on innove. Est-ce qu'on innove pour eux ou est-ce qu'on innove aussi pour soi ? Ce que je peux tout à fait aussi comprendre. Moi, j'aime utiliser effectivement les jeux de Tiagi pour leur variété. J'utilise aussi les outils de la créativité. Donc, par exemple, le CPS, le Creative Problem Solving. Donc là, c'est une méthodologie de résolution de problèmes à l'intérieur de laquelle on a 8 étapes. À l'intérieur de ces étapes-là, on a des activités. Par exemple, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, les personnages inspirants, par exemple, ça vient de là. J'utilise aussi l'improvisation théâtrale énormément. J'utilise beaucoup aussi des jeux de cartes. Des jeux de cartes, il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle les valeurs ajoutées. J'utilise le photolangage d'une manière générale. Après, il y a les tours de magie qu'on peut utiliser aussi. Tours de magie, oui, bien sûr. Encore une fois, ce ne sont que des prétextes. En fait, on utilise des activités, parfois, qui vont être comme cette activité-là j'ai faite, dites-le dans le bon ordre, avec les jours de la semaine. C'est une activité qui nous permet ensuite d'aller au ce qui est le plus important. Donc là, par exemple, à travers une activité qui nous a pris même pas 2 minutes, on aurait pu commencer une discussion à partir du changement. Qu'est-ce que le changement et par quelle face ça nous fait passer, etc. C'est un peu comme une introduction, si tu veux. Donc, j'utilise aussi des... En fait, ce que tu peux faire aussi, c'est détourner des jeux qui existent déjà.
Comme le Monopoly ou...
Comme le Monopoly ou comme le Time's Up. Comme question pour un champion. C'est ça aussi un jeu cadre. Tu gardes la structure du jeu, donc la mécanique du jeu, mais tu enlèves le contenu et tu mets le tien.
J'avais aussi une question par rapport à la digitalisation du monde et des entreprises. Est-ce que toi, ou dans ce que tu as vu l'intégration d'outils digitaux dans ces formations? Et qu'est-ce que tu en penses?
Alors, je suis assez peu documentée et assez peu au courant par rapport à ça. J'ai entendu par exemple j'ai entendu parler de klaxon.
Oui.
J'ai voilà.
En plus, je crois qu'ils sont bretons.
Oui, effectivement, bah, je les ai vus à l'Agiltour Rennes.
Ah oui, à Rennes. Ah oui, je crois qu'ils sont à Rennes.
Oui, c'était assez
Mais
sympa.
je pensais spécifiquement à eux, justement.
Ah. Alors, ce que j'ai vu, effectivement, m'a plu. Après, d'une manière générale, donc je ne parle pas d'eux, je parle vraiment d'une manière générale. Je ne suis pas une grande fan de la technologie par rapport à ça, parce que jusqu'à présent, l'usage que moi j'en ai vu être fait, c'est-à-dire au-delà de l'outil, mais l'usage qui en est fait, je n'ai pas vu de valeur ajoutée. Ça, par exemple, quand tu fais un sondage en direct dans une salle. J'ai pas vu là. Alors c'est certainement l'utilisation encore une fois. Mais moi personnellement, je ne l'utilise pas.
D'accord.
Voilà, j'y vois pas de valeur ajoutée pour l'instant.
Est-ce qu'il y a d'autres sujets dont tu veux parler, dont on n'aurait pas parlé?
Oui, il y a quelque chose en fait à chaque fois. Moi, c'est ce qui ressort pour moi. On me dit des fois quand j'en parle de animer autrement. Si tu veux, moi, mon cœur de métier, c'est l'innovation pédagogique et maintenant, ça s'est ouvert à l'innovation managériale. C'est le fait de oser, en fait, oser faire confiance aux participants et oser se faire confiance, en fait, en tant qu'animateur. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, en fait, que je remarque qui est vraiment important et c'est ce qui change, en fait, c'est ce qui permet de changer de regard.
Mais ce qu'il y a, c'est que d'expérience, certaines entreprises, bah, c'est pas si évident d'oser, notamment s'il n'y a pas de confiance entre le management et les salariés. Ça peut créer des choses parfois qui peuvent être compliquées.
Oui, mais tout l'enjeu, c'est vrai que tout l'enjeu est effectivement là. Tout l'enjeu est effectivement là. Donc c'est pour ça qu'il y a des manières de faire, hein. C'est effectivement pas, on n'est pas obligé de tout révolutionner. Mais des fois c'est des choses simples. C'est des choses simples. Simplement de, ne serait-ce que tu vois, par exemple avec le jeu dont on a parlé, le Hello ou les 5 idées, c'est simplement déjà de donner la parole aussi à ceux qui sont dans la salle.
Mais ça, c'est
Simplement.
marrant. Je suis contente que tu parles de ça parce que c'est une question que j'avais tout à l'heure et qui n'est pas que je l'ai pas exprimée tout de suite. Mais quand on fait ces jeux-là, par exemple dans l'exemple que je t'ai donné, on récolte de l'information, on engage les gens et les salariés à participer. Si c'est pris comme un divertissement, est-ce que ça ne peut pas créer un effet inverse si on n'exploite pas cette information, si on n'en fait pas quelque chose, si on ne l'intègre pas? Tu vois, j'ai l'impression que ça peut... Bon, moi, je suis une fervente adepte de toutes ces méthodes, j'y crois beaucoup. Maintenant, ma crainte, c'est quand le management le fait pour être cool et qu'il ne prenne pas la valeur et le potentiel de ce qu'il récolte. Et qu'ils n'en font pas quelque chose d'activé dans l'entreprise.
Malheureusement, après, il y a des choses qui échappent un peu à notre contrôle. C'est aussi la limite, hein, de nos interventions. Je veux dire, une fois qu'on est parti, il y a des choses où on ne pourra pas avoir la main dessus. Par contre, à nous, peut-être, dans les activités, quand on facilite, d'en faire quelque chose et de valoriser. Il y a quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est vraiment de valoriser les participants, de valoriser leur participation. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement change. On voit la dynamique qui change quand les participants se rendent compte que ce qu'ils disent est pris en compte par le facilitateur, ne serait-ce que par le facilitateur. Et encore une fois, je disais tout à l'heure que ça sert à organiser les échanges. Ce qui est très intéressant à faire, c'est de mener ce genre d'activité et d'avoir justement les managers, ou les managers qui sont présents. Parce que ça crée aussi du lien et ça leur permet, ça leur donne un espace où ils vont pouvoir échanger. Et un espace qui n'est pas le bureau du manager ou qui n'est pas l'entretien annuel d'évaluation, etc. Et pas une réunion, c'est un autre espace qui est créé.
Tu vois, ça, c'est mes propres craintes que j'exprime parce que je crois tellement à ça, à l'engagement, à la participation dans la transformation des organisations, parce que comme un individu, une organisation est tout le temps, elle est toujours en train de se transformer. Et c'est, en tant que facilitateur ou formateur, d'aller en entreprise, de croire profondément à ça, de récolter de l'information et qu'ensuite ce ne soit pas vraiment intégré par les managers. J'ai l'impression parfois, et ça je te dis, c'est une crainte personnelle, de participer à avoir trompé. Parce que ça donne un espoir quand on participe, quand on met de sa sueur, quand on donne des idées, quand elles ne sont vraiment pas prises en compte, ça peut avoir un effet inverse.
Non mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait de quoi tu parles. Mais encore une fois, si c'est après notre intervention et que ça fait pas partie, tu vois, parce que des fois on peut avoir la chance aussi d'accompagner des entreprises dans leur transformation et du coup de les suivre pendant un certain nombre de mois. Mais ce n'est pas toujours le cas et c'est rarement le cas même, en tout cas pour moi. Donc il y a des choses qui vont totalement nous échapper. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis. Ce qui est important, c'est que en tout cas durant la durée des ateliers qu'on mène, que les participants que ce soit vraiment clair que toutes les leur participation soit prise en compte et que ce soit débriefé ou en tout cas qu'on en parle. Et qu'on leur propose des fois aussi, on utilise une activité, on prend appui sur l'activité précédente pour la suivante. C'est-à-dire on peut aussi faire des activités qui sont des plans d'action, des activités qui sont voilà, on va se projeter dans le futur pour dire ben voilà, on a atteint l'objectif, ben comment est-ce qu'on a fait pour l'atteindre et on va mettre en place des plans d'action. Parce que notre but, c'est effectivement, c'est qu'il y ait quelque chose qui soit différent après. Donc oui, ça on sait faire, mais encore une fois, il y a encore des choses qui nous dépassent.
Alors je te propose de passer au questionnaire.
Oui.
Et avec la première question, est-ce qu'il y a un échec, une erreur dans ta vie personnelle ou professionnelle qui t'a particulièrement fait progresser et qui t'a appris?
J'en ai fait quelques-unes, donc. En tant que facilitatrice, quand j'ai débuté, une des erreurs que je faisais était de croire que le scénario que j'avais écrit était ce qui allait se passer et que j'allais respecter absolument tout ce qui était dedans. Et donc, ce que j'ai appris de ça, c'est que non, c'est pas le cas. Ce que j'ai appris, c'est de la flexibilité, l'adaptabilité et que ce qui importait à partir du moment où je rentre dans la salle et que les participants sont là, c'est ce qui se passe en live.
Deuxième question, est-ce qu'il y a une technique ou un outil en dehors de ceux dont on a parlé qui t'a particulièrement marqué?
Écoute, j'ai découvert il y a quelque temps l'utilisation des Lego en formation. Et c'est quelque chose, alors je ne dirais pas qui m'a aidée, mais qui m'a ouvert d'autres horizons.
À quels horizons?
Le fait de construire. En fait, ce que j'aime beaucoup avec l'utilisation des Lego, quand ils sont utilisés vraiment pour un objectif d'apprentissage et ou d'amélioration de la performance, pas uniquement pour le fun, c'est le fait de pouvoir modéliser et de pouvoir ajouter une autre modalité, c'est-à-dire une modalité qui est kinesthésique et la métaphore de la construction. Ça, j'ai trouvé ça assez fort de pouvoir en fait modéliser, mettre en 3D une idée, quoi. Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas, donc que je n'insérais pas dans ma pratique. Donc ça m'a ouvert des horizons et des possibilités. Et voilà, moi j'adore ça, quoi. Donc,
ouais, je suis d'accord. Quand en fait, tu arrives à externaliser quelque chose sur un autre objet, en plus, ça te donne de la distance, c'est-à-dire que c'est moins dangereux pour ta personnalité presque,
oui,
de le mettre sur un objet.
Absolument.
Tu cristallises moins sur le fait que, oulala, tu te révèles.
c'est ça, absolument.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager?
Je dirais l'empathie.
Alors pourquoi l'empathie?
Pour être, en fait, l'empathie, pour être capable de s'adapter, c'est-à-dire de comprendre que l'autre peut avoir un ressenti qui est totalement différent du sien, et que ce n'est pas une question de jugement, c'est-à-dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est simplement c'est là, et d'être donc du coup capable de pouvoir s'adapter, de le prendre en compte dans sa réponse ou dans ses décisions, et de pouvoir avoir une réponse qui est adaptée.
Ok. Et est-ce qu'il y a un livre que tu pourrais nous conseiller à la lecture?
Alors, on en a déjà parlé, je crois, mais c'est Modèle de jeu de formation de Bruno Hurst et Sivasalam Tyagarajan, donc Tyagi. Je crois que c'est un des livres que je recommanderais à vraiment tous les formateurs. C'est un peu comme la base, quoi.
Il est juste là, moi je l'ai. Donc achetez-le, c'est bon. Oui, c'est vrai qu'il y a plein d'exemples de mécaniques, justement, de structures de jeu. Et c'est vrai que je vais le feuilleter de temps en temps quand je cherche à trouver la bonne construction pour mes interventions.
Oui, et tu as aussi, si je peux en rajouter un,
Oui, bien sûr.
il y a un livre que j'aime particulièrement aussi qui s'appelle Game Storming.
Oui, je l'ai aussi.
Ah bah voilà.
Oui, Game Storming, oui, bien sûr.
Je trouve qu'ils sont très complémentaires.
Et pour finir, une citation, peut-être, qui t'inspire.
Écoute, je crois que je vais citer Tiagi. Ça surprendra peut-être personne. C'est une des citations qui est la plus inspirante pour moi. Ne cherchez pas à couvrir un sujet, mais cherchez à le faire découvrir.
Pas mal. Ok.
Elle résume beaucoup de choses pour moi.
Eh bien, merci. On arrive au bout. Merci beaucoup. Bon, alors après, c'est un sujet qui, moi, me passionne, mais où est-ce qu'on peut te contacter si des gens qui écoutent là ont envie soit de travailler avec toi, soit de rentrer en contact avec toi? Quel est le moyen le plus facile?
Le moyen le plus facile, je dirais, sur LinkedIn.
Ok. Donc je mettrai ton nom qui se prononce Cornexel.
Oui, absolument. Ah, parfait.
J'ai révisé avant.
C'est bien.
Parce que ça s'écrit Cornexl. Donc c'est vrai qu'au début, quand on lit, on se dit comment ça se prononce?
C'est vrai. Mais comme je t'ai dit, c'est comme la plupart des choses. Ça paraît compliqué, mais c'est ça.
Alors en guise de conclusion, tu voulais partager avec nous une dernière activité?
Oui, une activité que je te propose de faire et que je propose aux auditeurs de faire, seulement s'ils ne conduisent pas.
Ah, alors c'est vrai qu'il y en a qui l'écoutent dans leur voiture, je le sais expressément,
Voilà, donc
ils se reconnaîtront.
ils garderont ça pour quand ils seront arrivés. Alors, l'activité que je te propose simplement de suivre le guide. Donc, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît?
Je peux le faire. Aïe.
Ferme les yeux, serre-les fort, ouvre-les en grand. Fais un tour complet sur toi-même.
Là, j'ai les écouteurs, alors attends 2 secondes. Oui.
Lève ton bras droit, ferme le poing et tape 3 fois contre ta poitrine.
Oui.
Parfait. Alors maintenant, quand on te posera la question, alors c'est comment ce podcast ce matin avec Esther, tu pourras dire sincèrement que ça t'a fait prendre de la hauteur, que ça t'a fait changer de regard, que ça t'a complètement retourné et que ça t'a touché au cœur.
C'est de la manipulation. Merci beaucoup Esther.
Merci à toi,
Je
Johanna.
sais que tu es à New
Merci de venir.
York, donc bonjour aux États-Unis. C'est ça qui est fabuleux aussi avec ces podcasts, c'est que on peut communiquer, on peut
Ouais.
faire des enregistrements à travers la planète.
C'est ce que j'aime avec la technologie, tu vois. C'est le bon côté de la technologie.
Ah ouais, ça nous ouvre des possibilités, c'est fabuleux. Hein. Mais bon.
C'était un plaisir, Johanna. Merci beaucoup.
Eh ben, bonne continuation.
À toi aussi.
J'ai envie de vous dire merci. Merci parce que, bien que j'ai totalement conscience que il me manque un talent important pour devenir une bonne intervieweuse, et notamment c'est celui de finir mes phrases, de ne pas interrompre, de... je sais pas, de ne pas poser deux questions dans la même question. Donc, il est clair que ce n'est pas mon métier. Et pourtant, ça fait 9 ans que je fais des interviews. D'abord sur YouTube, et puis depuis 2 ans, ce podcast, en direct de ma petite ville de Port-Louis. Et j'ai la chance que vous soyez là. Déjà, j'ai la chance que vous écoutiez ces mots. J'ai la chance de me sentir, d'une certaine manière, par vos écoutes, mandatée pour aller dénicher, rencontrer des sujets, mais surtout des personnes qui portent ces expertises, ces expériences. J'étais persuadée que Moodstep, ce podcast, les interviews que j'ai pu faire sur YouTube, je pensais que c'était un plaisir égoïste, que je le faisais avant tout pour moi. Et puis, aujourd'hui, comme un effet boomerang, et après avoir rencontré pas mal d'entre vous, peut-être certains qui écoutent ces mots, mais en fait, ces rencontres, du petit nombre, on va dire, me relie, j'ai l'impression, à tout le monde, à tous ceux qui écoutent. Parce que à chaque fois, c'est comme cette même histoire. Nous cheminons ensemble, nous apprenons ensemble. Et donc, je ressens énormément de gratitude de toutes ces années passées ensemble avec certains. Peut-être que vous n'avez écouté que ce podcast, mais de toutes ces personnes rencontrées, de tous ces apprentissages de... Quelle vénarde. Donc merci. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour continuer cette exploration. Ce sera probablement sur la typologie disque pour ceux que ces méthodes intéressent. Encore un grand merci. À très bientôt.